Vous écoutez
RMC.
Alors pour commencer ce lundi soir, les drôles de dames, avant de débriefer vraiment ce qui s'est passé dans vos championnats respectifs, j'aimerais quand même que vous me parliez de la façon dont vos pays de foot ont perçu ce PSG-Bayern de la semaine dernière, match de l'année, œuvre d'art, consécration de deux idées du foot moderne. On a entendu un peu tout ça en France. Et chez vous alors, c'était quoi les débats? Qu'est-ce qui en a découlé? Julien, peut-être en Angleterre pour commencer.
Ouais, on en avait déjà parlé un soir avec Daniel, Gilbert et Walid, je crois, qui était là aussi, ou Flo. Moi, j'ai eu des réactions assez marrantes. Par exemple, Kenny Cunningham, que vous connaissez peut-être pas, que pas beaucoup d'auditeurs, je pense, connaissent, qui a été un bon joueur de Premier League et de Championship, mais pas rien d'extraordinaire, mais qui lui, par exemple, il est maintenant consultant à la télévision irlandaise, nous a quand même sorti que la finale de Ligue des Champions 2003, donc rappelez-vous, même Daniel s'était endormi ce jour-là entre la Juve et le Milan, qui avait fini à 0-0, tir au but, etc. Je sais pas si vous vous rappelez,
ouais, très fort. Bien sûr, on a envie de l'oublier, mais oui.
Voilà, bah, que lui avait préféré ça au match de la semaine dernière entre le PSG et le Bayern. Et on a eu vraiment les deux façons de penser, les deux styles qui se sont opposés. Certains qui eux ont dit c'était le match du siècle, c'était incroyable. On a beaucoup posé la question aux entraîneurs de Premier League, notamment Mikel Arteta la semaine dernière, donc avant leur match du week-end, sur est-ce que les grands clubs anglais pourraient un jour jouer comme ça, est-ce qu'on a fait, on a besoin de faire venir un Luis Enrique ou quelqu'un pareil pour avoir ce genre de football chez nous. La réponse de Mikel Arteta, qui a surpris personne finalement, il a dit bah oui, mais quand vous avez un championnat aussi difficile, aussi intense que la Première Ligue pendant toute la saison, c'est compliqué, parce que pour jouer comme l'ont fait le Bayern et le PSG, ce qui est vrai dans un sens, il faut aussi faire tourner, faire reposer ses stars.
Et les Anglais ont beaucoup. Mais pendant des années, on entendait l'argument inverse, en disant justement les championnats nationaux préparent pas assez ses équipes aux grands matchs intenses de Ligue des Champions.
Tout à fait. Et donc c'est intéressant de voir effectivement cette évolution là. Je pense qu'Arteta a raison dans un sens aussi, ce qui est vrai. D'ailleurs, les Anglais ont beaucoup montré les statistiques, par exemple des joueurs d'Arsenal qui avaient le plus joué en championnat cette saison, et des joueurs du PSG, du Bayern, mais surtout du PSG, qui avaient le plus joué cette saison. Et tu te rends compte qu'il y a quand même des trucs incroyables. Tu vois qu'un remplaçant d'Arsenal a joué plus de minutes en championnat que Ousmane Dembélé, par exemple, en championnat pour le PSG. Donc forcément que à ce niveau-là, il y avait pas de match, quoi, pas de compétition.
Ça c'est sûr. Et en Italie, on en a dit quoi de ce match?
Mais un peu.
Ça intéressait.
Oui, moi je rigolais tout à l'heure, mais il y a eu ce genre de discours-là, c'est-à-dire c'est pas d'ouvrir football. On a ressorti toutes les déclarations de Mourinho quand il a dit que 5-4 c'est plutôt un match de hockey. Il y a aussi un changement un peu dans l'opinion publique, c'est-à-dire par exemple sur les plateaux de Sky Sport, Fabio Caressa, c'est un des plus importants commentateurs et chroniques aussi de football. Il a dit, franchement, il faut qu'on change, il faut qu'on regarde ça et qu'on aspire à devenir ça. Milan Juventus, qui avait eu la semaine d'avant, c'était donc frappant la confrontation entre les deux matchs. Il a dit c'est nul, ça c'est pas la façon de jouer. Et c'est vrai, on part d'un football italien qui a du mal à s'évoluer, vendre à l'étranger, on essaye toutes les choses, on va jouer, on essaye d'organiser des matchs à perte en Australie, et après il faut peut-être mettre un peu de spectacle là-dedans. Il y a Allegri par exemple qui a dit, après on a cherché des explications aussi, on s'est dit mais pourquoi à l'étranger le football c'est ça et chez nous c'est autre chose. Allegri il a dit bah c'est simple, en fait en Serie A la balle elle est en jeu 20 secondes, en deuxième division italienne 40 secondes, il a dit en troisième division 20 secondes, en deuxième 40, en Serie A 1 minute et demie, des numéros qu'il a sortis comme ça de son chapeau, en Champions League même 3 minutes. Alors moi je suis allé regarder les minutes effectives des Milan, la balle en jeu dans les matchs des Milan, c'est les mêmes minutes en jeu de par exemple Manchester City en Premier League. Donc c'est pas la question de le temps que la balle elle est en jeu, mais qu'est-ce qui est tout fait dans ces temps-là. On s'ennuie avec les Milan parce que la balle elle circule lorsque Manchester City percute. Donc on a parlé de ça. Il y a eu des fausses solutions comme celle d'Allegri. Il y a eu des mauvais entraîneurs comme Colantuono, c'est un entraîneur d'Atalanta, Salernitana, des bas niveaux, qui a dit c'était un match qui les puristes, on les appelle comme ça en Italie, ils ont pas aimé. Il a dit que si on amène ces matchs-là à Coverciano, que c'est le siège des entraîneurs italiens de la fédération italienne, il y a pas beaucoup de choses à montrer pour apprendre le football.
Oui, donc ça, moi, ça montre bien à quel point l'Italie va dans le mur.
C'est une partie de l'Italie, on n'est pas tous comme ça, et il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne sont pas d'accord sur ces discours-là. Spalletti aussi, il a dit, il faut qu'on comprenne que le football est à un autre rythme au niveau européen, il faut qu'on prenne plus de risques, il faut qu'on change des cultures. Donc ça dépend, mais il y a beaucoup ces discours-là. Moi, ce qui me choque, c'est que ces discours-là le font beaucoup de supporters. Ça, franchement, ça me choque. Parce que je comprends des entraîneurs, je comprends des dirigeants, mais les supporters, mais quel intérêt? Quel intérêt comment ils peuvent penser que pour gagner, il faut faire des 0-0, il faut pourrir les jeux, il ne faut pas avoir de spectacle, que le spectacle est l'ennemi de la victoire. Ça, c'est quelque chose qui est rentré dans la tête de beaucoup de supporters italiens et je ne comprends pas vraiment pourquoi.
En Espagne, Edgar, on en a dit quoi?
Écoute, le match a été admiré, très apprécié. Je pense que tout le monde a adoré et que ça collait aussi avec la culture ici où on aime voir du beau jeu, des beaux buts, du spectacle et un football offensif. Après, bon, c'est comme dirait l'autre, c'est le goût et les couleurs et certains ont préféré d'autres grands matchs dans l'histoire. Et d'ailleurs, je pense que certains n'ont pas compris la question qui était de se dire est-ce que c'était la meilleure opposition de l'histoire ou l'une des meilleures oppositions, parce que certains nommaient des matchs où ça avait été plutôt des récitals. Par exemple, il y avait un grand journaliste sur la Copé qui disait non, la finale de l'Euro 2012 quand l'Espagne étrit l'Italie, c'était un plus grand match. Bon, c'est pas vraiment ça la question, mais une fois que tout le monde s'est dit le match est incroyable, tout le monde s'est regardé, s'est dit mais ok, est-ce qu'aujourd'hui il y a des équipes espagnoles qui sont capables de faire ça? Pour les médias madridaines, le constat était extrêmement simple. Le Real Madrid par exemple, il y a des années-lumière de pouvoir participer à un match comme ça. On l'a vu, ils ont rivalisé à certains moments avec le Bayern Munich au tour d'avant, mais on a du mal à imaginer le Real Madrid participer à un spectacle de football comme ça aujourd'hui. Le Barça, pour le coup, on a un peu plus de facilité à les imaginer là, même si on sait qu'ils ont des failles et qu'ils sont peut-être pas aussi aboutis que ces deux équipes-là. Et l'Atlético, c'est encore autre chose, c'est encore un autre style. Donc il y avait vraiment une introspection, j'ai envie de dire, en Espagne, de se dire c'est quand même embêtant que beaucoup ont plus hâte de voir le match retour Bayern-PSG que Arsenal-Atlético où il y a une équipe espagnole.
Polo, t'as beaucoup parlé aussi des médias allemands la semaine dernière autour de la rencontre. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué aussi dans les jours qui ont suivi?
Alors moi déjà, je comprends tous ces débats, mais c'est sans doute aussi le privilège de l'âge, c'est-à-dire l'évolution du football. Et par contre, je n'arrive pas à comprendre beaucoup de ces anciens champions qui, de toute façon, parlent souvent à l'aune de leur propre gloire, qui font des faux débats. Ce qui s'est passé la semaine dernière peut-être, je dis bien peut-être, je suis pas voyant, préfigurer ce que sera le football de demain. Moi, ce qui m'a frappé dans cette rencontre, c'est pas le 5-4, des 5-4, il y en a déjà eu dans l'histoire du foot, hein, l'accord avec PSG, etc. Il y a eu plein de choses comme ça. C'est la qualité technique des joueurs. C'est-à-dire que lorsqu'on attaque les défenseurs aujourd'hui, et je pense à Michel Platini, qui dit logiquement, à mon époque, la défense était considérée comme un art. Mais quels sont, une fois de plus, les grands perdants du football des 25-30 dernières années à l'aune du spectacle qu'on veut proposer? Ce sont les défenseurs, justement. Donc moi, si tu veux, je veux bien qu'on critique Stanisic, je veux bien, parce qu'il a souffert contre Gvara, je veux bien qu'on critique Mendes, parce qu'il a souffert face à Olise. Mais quand on commence à me dire qu'Upamecano est une bille, que la défense centrale du PSG, c'est des tocards, alors que les mecs, pendant toute la saison, ils sont exceptionnels, je trouve que c'est un petit peu fort de café. Il s'est passé un truc extraordinaire, mais je pense qu'on le prend même... Mais en plus, tu vois, Platini, il m'énerve, parce qu'à chaque fois qu'il sort une phrase, il te parle du temps passé, et il oublie qu'il a été président de la République, donc je sais bien, responsable mais pas coupable. Il est aussi responsable que les autres, sinon plus, de toute l'évolution du football moderne qu'on a vu.
Ensuite... Moi Poulain, attends, et tu vas finir, mais moi je suis quand même parfaitement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il parle du 5-4 comme s'il n'y avait que des erreurs défensives. Or, exactement, pour moi, c'est la victoire de l'attaque qui a fait, exactement, que les bien défenseurs sûr ont été en difficulté.
Exactement. Quand on voit la qualité technique des joueurs, des buts, vous avez le but de Gvara. En Allemagne, il y a eu ce débat, ou faux débat, parce que ça s'est arrêté très rapidement. Manuel Neuer n'a eu aucune occasion, n'a pas pu arrêter un seul but. Mais t'as vu les tirs? Comment tu veux? Gvara, t'as vu le tir qu'il met, Gvara, dans le petit filet? Quand Dembélé fait la même chose, il touche même le poteau, c'est-à-dire que ça sort, c'est la même, ils peuvent rien faire. Donc, moi, toutes ces choses-là, c'est compliqué tout de ça. Et ce sont les grands perdants, ce sont les défenseurs. Par contre, ce qui est vrai, il y a un autre débat qui est arrivé en Allemagne, qui n'existait pas et qui pareil est un, c'est pas un faux débat, mais c'est un débat. On ne peut pas dire du jour au lendemain que la défense du Bayern est devenue nulle alors qu'elle a été excellente pendant toute la saison. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé cette saison de l'offensive du Bayern, le fait de marquer un nombre de buts incalculable, etc. Mais ce qui est important, c'est que Vincent Kompany avait trouvé un équilibre. Le goal average du Bayern, c'est plus 81. Donc ça veut dire que c'était la meilleure défense de Bundesliga, c'était l'une des meilleures défenses aussi en phase régulière de Ligue des Champions. Et tu as, depuis quelques journées de Bundesliga, en faisant tourner son effectif, le sentiment que c'est un petit peu plus fragile. Donc c'est un débat actuel qui vient d'arriver, mais qui n'existait pas pendant les 8 premiers mois de l'année. Donc toutes ces choses-là me semblent complexes. Par contre, moi je reviens sur ce que j'ai dit après la rencontre de mardi, et j'étais époustouflé comme tout le monde. Si le football de demain c'est ça, va vraiment falloir qu'on trouve d'autres grilles d'analyse, parce que tout ce qu'on a connu n'existe plus. C'est-à-dire que ça va être très très compliqué d'analyser ce genre de rencontre.
Oui, la question que c'est, est-ce que c'est une tendance globale ou est-ce que c'est juste là magnifié par les deux meilleures équipes d'Europe?
Donc, le titre de kicker ce lundi, c'est le sens du jeu. C'est-à-dire le sens du jeu, tu peux remplacer le mot jeu par le sens de l'histoire. C'est ce qui risque d'arriver, c'est ce qu'on veut pour le spectacle. J'ai même vu des gens sur les réseaux sociaux qui passaient leur temps à dire « Mais ce qu'on a vu, c'est génial, c'est comme quand on était à l'école à 10 ans et que on jouait entre les cages de handball et on gagnait 19 ou 18, etc. » Non, ça pose d'autres types de questions. Le rôle des gardiens, le rôle des centraux, le rôle des défenseurs au sens large. Peut-être que demain, il y a quelqu'un qui va nous mettre 8 joueurs offensifs sur le terrain sur les 10 joueurs de champ, parce qu'on considère que le foot va évoluer comme ça. Je le dis d'autant plus que je finis avec ça. Je finis avec ça, c'est que 24 heures avant la rencontre, je sais pas pourquoi, je me suis tapé un documentaire du Brésil des années 80. Donc Socrates, Falcao, Zico, etc. Celui qui peut m'expliquer les différents... Moi, je préfère toujours la plus grande équipe du Brésil que j'ai vue de ma vie, c'était celle des années 80. Mais à l'époque, il n'y avait pas de pressing, les mecs couraient pas, on laissait faire tout ce qu'on voulait aux joueurs, les numéros 10, on savait ce que ça voulait dire. Donc, c'est autre chose. Mais on peut pas l'analyser avec des vieilles grilles de lecture. Et encore une fois, moi, je dis chapeau à Dembélé, je dis chapeau à Kane sur son ouverture sur Luis Diaz, je dis chapeau à Olise quand il enrhume Mendes, etc. Ça, c'est un truc qui n'a pas été analysé. Et ça ne m'étonne pas que des grands champions critiquent ça, parce qu'ils passent leur temps à juger l'autre en fonction de leur propre gloire. Et ça, c'est un vrai problème.
Jean-Louis, ça me fait,
vas-y Edgar,
ça me fait penser dans l'analyse de ce match et beaucoup des choses qu'on a entendues, notamment sur la critique des défenseurs. Ça me fait penser parfois à la NBA et au débat qu'il y a en NBA où, bon, oui, des fois t'as des mecs peut-être qui ils défendent pas assez ou ils défendent pas assez bien ou je ne sais quoi. Mais il y a surtout quelque chose qui est l'évolution de la qualité offensive des joueurs. Et aujourd'hui, t'avais une telle technique, une telle vivacité de la part des attaquants sur ce match-là qu'au bout d'un moment, t'en arrives à un stade et à un niveau de football où tu dis mais les défenseurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur certaines actions et les gardiens qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur certaines actions. Il y a aussi une part de réalité là-dedans et c'est souvent l'un des problèmes qui est en NBA où t'as les gars qui sont devenus tellement forts par rapport à il y a 30-40 ans que parfois c'est tout simplement très très difficile de défendre sur ça.
Daniele.
Oui, non, je voulais juste ajouter qu'en Italie, on a parlé beaucoup de but de Luis Diaz pour la ligne des défenses de PSG. Il disait, elle était pas mise, elle était trop. Et le but de Olise pour Safonov. Ils disent, il aurait pu attendre à CGT. Donc, ils vont regarder dans les détails. Mais je pense que c'est des lectures partielles. Parce que, par exemple, il y a eu des bonnes lectures défensives. Par exemple, il y a une action où Upamecano.
Oui, il
arrête
énorme,
Dembélé.
Dembélé,
oui, voilà. Donc, voilà. Pourquoi on parle pas de ça? Plutôt que... Et après, je voulais ajouter l'expérience italienne dans la tactique du jeu. Je pense que c'est important. C'est un match où c'était très important les marquages individuels. C'est-à-dire, c'était des défenses orientées sur l'homme. Même les buts, par exemple, de Luis Diaz, la ligne des défenses du PSG, elle est haute, mais elle n'est pas en ligne. Parce qu'il y en a. Il y a Pacho qui sort.
Ouais.
qui sort, par exemple, entre les lignes sur l'Olysée, je me souviens pas qui, Marquinhos qui
Ah, mais de toute façon, c'est la clé du spectacle de ce match, c'est qu'il y a eu du 1 contre 1 partout, assumé non, par
oui,
les deux entraîneurs.
Justement. Mais en Italie, moi, je pense, on a vu la pire saison de l'histoire aussi parce que toutes les équipes marquent individuellement. Je pense que il va revenir à la mode la défense à zone. C'est-à-dire avec la référence sur l'espace. Ça peut être un autre changement de
peut-être. En tout cas, ça va être intéressant de surveiller l'après, donc PSG-Bayern, et s'il y a des grandes tendances qui évoluent dans le jeu.